France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Saskia Deville.
Et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Bonjour Raphaël Pichon.
Bonjour Saskia.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes chef d'orchestre, chef et fondateur de l'ensemble Pygmalion. On a le plaisir de vous recevoir pour parler de concerts, de productions, d'opéras, de belle musique au Festival d'Aix-en-Provence, d'énormément de projets évidemment avec cet ensemble que vous avez fondé en 2006 déjà. Chœur et orchestre sur instruments d'époque, un ensemble avec lequel vous menez de nombreux et d'ambitieux projets. Est-ce que vous êtes un idéaliste, Raphaël Pichon?
Oui, je le crois, oui.
Oui, par rapport à la musique classique?
Bien sûr. Je crois que nous vivons à nouveau une période absolument passionnante, à savoir que la musique classique n'a plus ce monopole qu'elle a pu avoir pendant de nombreux siècles, enfin une certaine forme de monopole, et qu'elle a aujourd'hui elle peut aujourd'hui toucher un public encore plus large, mais pour ça, nous devons faire preuve d'inventivité, de créativité.
Elle doit se battre?
Je ne sais pas si elle doit se battre, non, mais elle doit exister. Elle doit prouver à quel point elle peut aujourd'hui jouer un rôle, changer la vie. Elle peut venir bouleverser nos vies.
Comment peut-elle changer, bouleverser la vie?
Parfois par des expériences très simples, des expériences sensitives, des expériences presque physiologiques. Parfois par des expériences intellectuelles. Parfois par juste une sensation, c'est ça qui fait aussi sa profonde richesse, c'est sa multiplicité.
Faut-il lui apporter d'autres formes d'art pour justement lui permettre de véhiculer ou de toucher autrement?
Non, bien sûr que non, pas forcément.
Elle se suffit à elle-même,
mais par contre, elle peut parfois bénéficier d'une rencontre avec un autre art, elle peut s'ouvrir à nous de façon plus évidente.
Est-ce que la musique classique est raisonnable?
Parfois, je pense qu'elle est totalement irrationnelle, oui. Sans aucun doute.
Est-ce que, au bout de 12 ans, si je compte bien, 13 ans presque d'existence de l'ensemble Pygmalion, vous rencontrez le même enthousiasme, la même ouverture de la part des programmateurs? On parle beaucoup de crise financière, du fait que c'est compliqué de mettre en place des projets dans de grandes ambitions artistiques. Est-ce que vous sentez plus de résistance aujourd'hui ou cela n'a pas changé?
Non, je crois que à la tête d'une majorité aujourd'hui des grandes maisons, des grandes salles de concert en Europe, en tout cas c'est les lieux que je connais le mieux, il y a toute une jeune génération de directeurs qui sont de grands curieux, de grands passionnés, capables de faire confiance et qui sont des personnes absolument ambitieuses et qui portent dans leur âme le besoin de défendre cette musique. Non, je suis pas du tout, je suis très
optimiste.
Ouais, optimiste. Très optimiste sur ce sujet.
Christ,
Les premières mesures de cet extrait de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Eugénie Warnier, Anna Reynolds, de l'ensemble Pygmalion et notre invité ce matin, Raphaël Pichon, une œuvre qu'on pourra entendre ce vendredi 24 mai à la Philharmonie de Paris, rendez-vous à 20h30 avec une belle distribution évidemment, comme toujours, Joanne Loun, Léa Desandré, Lucille Richardot, Emiliano González Toro, qui sera d'ailleurs notre invité après-demain dans Musique Matin, je le précise. Un concert qui sera enregistré et diffusé par la suite sur France Musique. Raphaël Pichon, je crois que vous êtes fou de Jean-Sébastien Bach depuis tout petit.
Oui, depuis, je crois que c'est même le compositeur qui a fait naître chez moi cette vocation de musicien.
À quel moment? Un moment particulier? Une révélation?
J'avais 10 ans et je faisais déjà de la musique, j'avais la chance de jouer du violon. J'étais dans une classe à horaire aménagé, comme on appelle ça. Et voilà, je vous parlais tout à l'heure un peu d'expérience sensitive, je crois que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai été cueilli à l'âge de 10 ans. Je venais de rentrer dans une maîtrise de jeune garçon. Et j'ai eu la chance de pouvoir chanter La Passion selon Saint Jean. Et cette expérience, a déclenché quelque chose ensuite qui m'a jamais quitté et qui est presque aussi aujourd'hui une sorte de besoin, c'est-à-dire un besoin de retrouver ces sensations primitives.
Et puis d'explorer d'autres œuvres peut-être moins connues que La Passion selon Saint Jean. Ici, cette messe en si mineur. Comment est-ce qu'on travaille avec des chanteurs sur le texte d'une messe?
Écoutez, je crois que Jean-Sébastien Bach nous livre toutes les clés lui-même. La messe en si mineur est peut-être l'un des voyages en musique les plus bouleversants, les plus passionnants. C'est une œuvre qui, à l'image de Jean-Sébastien Bach, touche à la fois au cœur et à l'esprit, c'est-à-dire que c'est une œuvre d'une extrêmement directe, c'est-à-dire une musique qui vient nous toucher et en même temps une œuvre d'une telle science, d'une telle architecture, d'une telle perfection, qui est aussi une œuvre de synthèse parce que cette œuvre rassemble des pièces que Bach a écrites tout au long de sa vie. Et elle est mûrement pensée, mûrement réfléchie, mais sans jamais perdre cette force, encore une fois très directe, qui peut bouleverser aujourd'hui tout un chacun.
Et puis c'est une messe qui vous suit depuis un petit moment. Hein. L'extrait qu'on a écouté, c'est un extrait de ce disque enregistré en 2011-2012, déjà il y a quelques années. Est-ce que finalement, vous parliez de ces œuvres qui précédaient la création de cette messe qui ont inspiré Jean-Sébastien Bach, vous travaillez énormément sur l'œuvre de ce compositeur-là en créant vous-même des projets de grande envergure. Je pense en 2014, Trauernacht, sur des cantates de Bach que vous aviez assemblées en un spectacle avec la metteuse en scène Katie Mitchell, ce fait de vous concentrer sur sept concerts, sur une idée, en rassemblant aussi des cantates de Bach, ça c'était la saison dernière, en faisant appel à des danseurs, à l'artiste Marina Abramovic, à une compagnie de théâtre. Est-ce que c'est une manière aussi de détourner peut-être le contexte d'écriture? On est en Allemagne luthérienne du XVIIIe siècle, le quotidien est très lié à la religion. Est-ce que c'est une manière de se réapproprier cette matière, cette musique,
Raphaël? Oui, je dirais que c'est une manière de la faire dialoguer et donc aussi de créer une sorte d'appel d'air, c'est-à-dire de pouvoir, d'espérer rassembler un public plus large, plus éclectique. Effectivement, ces cantates de Bach ont été écrites pour un contexte bien précis, un contexte liturgique, à savoir des offices du dimanche, donc au début du XVIIIe siècle, à Leipzig, donc font face à, ont été écrites pour un public très particulier, un public aussi qui possédait lui-même des clés de lecture très précises, qui se retrouvaient dans les codes de ces œuvres, et pourtant ces œuvres ont encore beaucoup à nous dire aujourd'hui. Et pour ça, ce projet qui s'appelait donc Bach en 7 paroles cherchait donc à tout simplement à créer un dialogue avec d'autres formes artistiques et ainsi nous permettre une sorte de nouveau contexte d'écoute, de nouveau contexte pour appréhender et pour boire, pour recevoir cette musique unique.
Un extrait de Thamos, roi d'Égypte, d'un compositeur que connaît bien aussi l'ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon. Son chef est notre invité ce matin, Mozart, qui vous accompagnera cet été. Je pense que vous prenez le train dimanche, direction Aix-en-Provence pour le début de ses répétitions du Requiem de Mozart. Ce sera au théâtre de l'Archevêché à partir du 3 juillet, dans une mise en scène de Roméo Castellucci. Est-ce qu'on peut, on a déjà entendu quelques petites fuites sur le projet Roméo Castellucci à la mise en scène, donc est-ce qu'on peut parler d'un opéra imaginaire, d'une réécriture du Requiem? Comment est-ce qu'on pourrait définir ce projet, Raphaël Pichon?
Alors, je ne crois pas que ce soit un opéra imaginaire, non, pas du tout. Je crois que c'est plutôt, comme toujours, comme souvent avec Roméo Castellucci, une plongée en eau profonde. C'est-à-dire, le théâtre de Roméo Castellucci, est, moi, me passionne, me captive.
Pourquoi ?
Parce que je crois que Castellucci possède une façon de lire le monde absolument unique. Il fait partie de ces personnalités qui sont capables d'ouvrir grand de nouvelles fenêtres, une nouvelle vision du monde à travers parfois en créant parfois des collisions, en créant parfois des images, en appréhendant, c'est comme si on prenait un livre et qu'on le retournait, qu'on commençait par la dernière page ou qu'on le regardait sous un angle complètement nouveau. Il est capable comme ça de revenir à l'essence d'une œuvre en employant des chemins de traverse, en employant des sentiers détournés. Et je crois que c'est ce qui nous attend avec ce Requiem, c'est de réveiller notamment un peu sa fonction primitive, qui est que le Requiem est avant d'être une façon d'appréhender la mort, est avant tout une grande célébration de la vie, et qu'elle s'adresse à nous, ceux qui restent. Et Romeo Castellucci est en train de préparer un spectacle qui, je le crois, aura une force toute particulière, surtout avec cette musique qui est peut-être l'une des partitions les plus universelles et les plus bouleversantes qui n'ait jamais été écrite.
Ah, ça, je vous le confirme, j'ai le même sentiment. Révéler finalement d'autres facettes ou aller plus en profondeur au cœur d'une œuvre, ça peut être aussi évidemment le rôle d'un chef d'orchestre quand il aborde une partition aussi célébrissime qu'elle soit. Qu'est-ce qu'il reste à découvrir encore de ce Requiem, Raphaël Pichon ?
Je ne crois pas que l'enjeu soit de réussir à découvrir de nouvelles choses. Je crois que c'est malheureusement un écueil qui nous guette un petit peu tous. C'est ce besoin. Voilà, nous sommes des musiciens qui vivons essentiellement des musiques du passé, du patrimoine. Mais la course à la découverte peut être dangereuse. Non, je crois qu'ici, il est
de plutôt... ne pas faire la bonne sélection.
Non, je crois que c'est surtout qu'ici, il est question un petit peu d'alchimie, de nous mettre à la fois au service du récit que cherche Romeo Castellucci à nous conter sur scène, et que Romeo Castellucci ouvre grand ses bras, et je sais que c'est déjà le cas, avec une certaine forme d'humilité, à servir cette partition. Il se trouve qu'avec pour cette partition, il y a beaucoup d'enjeux, parce que c'est une partition qui est inachevée, et qu'il y a donc beaucoup de débats, et qu'il y a eu beaucoup de
tentatives.
Oui, enfin, disons qu'il se pose beaucoup de questions de savoir quel Requiem nous jouons, complété par qui, et donc jusque dans le détail de chaque mesure, pour chaque instrument, peut se poser la question exactement de beaucoup de d'enjeux qui ont ensuite un rapport direct avec l'interprétation et qui peuvent donc changer aussi le visage de cette œuvre. Mais donc plus que de découverte, c'est plutôt tout d'un coup accepter de rentrer dans la mécanique, de mettre un peu les mains dans le cambouis, si je puis dire, dans un cambouis absolument inouï, qui est celui de ce Requiem. Et tout ça toujours en regard avec cette quête que le théâtre de Romeo Castellucci puisse rencontrer cette œuvre.
Le Requiem de Mozart à découvrir donc à partir du 3 juillet au Festival d'Aix-en-Provence. Avant cela, rendez-vous évidemment ce vendredi 24 mai à 20h30 à la Philharmonie de Paris pour la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. On va se refermer cette interview, Raphaël Pichon, avec un extrait de ce disque que vous avez enregistré avec l'ensemble Pygmalion évidemment, et puis l'excellent Stéphane Degout aussi, Enfer, opéra imaginaire qui a remporté énormément de récompenses et encore dernièrement. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous.
Et puis à très bientôt sur France Musique. La danse des Furies, extrait d'Orfeuridis de Christophe Willibald von Gluck, interprété ici par celui qui était notre invité, Raphaël Pichon, et l'ensemble Pygmalion. Il est 8h51.
À réécouter sur francemusique.fr.